Décryptage, Marie Casadebé.
En Côte d'Ivoire, les habitants de Bouaké ont encore tremblé ces derniers jours au son des tirs de fusils et d'armes lourdes. Une semaine où chaque jour ou presque deux unités de l'armée se sont affrontées, l'une allant jusqu'à attaquer et vandaliser le camp de l'autre. Bilan, un militaire tué, un autre blessé et une nouvelle semaine de frayeur pour la deuxième ville du pays, trop habituée aux mutineries et autres mouvements d'humeur de ses soldats.
Au début, moi je pensais que c'était des pétards, mais apparemment c'était des armes lourdes, des rafales là. Les gens commencent à entrer la ville à concert déserte, mais ils ne sont pas en ville. Ils sont en fait basés dans les camps. Nous sommes habitués, mais là, on est fatigués. On est fatigués de cette affaire hein, parce que ça empêche les activités d'évoluer. On ne peut pas rester dans ça.
Bouaké, point de départ d'une série de mutineries en 2017 qui se sont étendues à d'autres villes du pays et qui ont fait plusieurs morts, à chaque fois les mêmes scènes. Des soldats qui n'hésitent pas à prendre des armes pour obtenir gain de cause. Alors quel est le problème dans l'armée ivoirienne? Pourquoi se traduit-il par l'indiscipline et la violence? La réforme lancée en 2016 et les mesures prises depuis le printemps dernier portent-elles leurs fruits? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Thomas Hofnung.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes journaliste au site The Conversation, auteur de La crise ivoirienne aux éditions La Découverte. Nous sommes aussi au téléphone avec Arthur Banga, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, spécialiste des questions de défense. Bonsoir Arthur Banga.
Bonsoir Malika.
Ce à quoi nous venons d'assister à Bouaké, Arthur Banga, est bien différent hein, des événements de 2017. On ne peut pas parler cette fois de mutinerie.
Non, clairement, il y a une différence entre ces deux événements. En 2017, on était dans une mutinerie au sens propre de ce terme, contestation des autorités militaires et revendication par les armes de certaines revendications. Et cette fois-ci, on est plutôt dans une sorte de guerre entre factions rivales. Voilà, dans une guerre entre deux tendances de l'armée ivoirienne basée à Bouaké. Cela dit, ça traduit quand même les mêmes problèmes de cohésion, de manque d'autorité du commandement, et puis de manque de discipline au sein des armées. Sans avoir forcément affaire aux mêmes événements, on a toujours les mêmes conséquences et les mêmes problèmes qui resturgissent.
En l'occurrence, on peut parler vraiment de rivalités internes, on parle de différents personnels. Est-ce que ces rivalités au sein de l'armée ivoirienne étaient déjà connues? Est-ce qu'on a déjà eu des exemples par le passé?
Oh, à un certain niveau, mais pas jusqu'à mettre en péril le commandement. Je veux dire, à toute naissance de l'armée, il y avait toujours ce problème, par exemple, dans les années 60, entre les officiers issus de la coloniale et ceux issus des grandes écoles. Là, depuis quelques années, on peut avoir quelques frictions entre les soldats issus des FPS, donc fidèles à Laurent Gbagbo, et ceux issus des forces armées, des forces nouvelles. Mais là, on atteint un degré assez critique. Et là où c'est encore plus grave, c'est que ce sont des soldats issus, tous des anciens rebelles, des forces armées, des forces nouvelles d'ailleurs, ce qui fait que c'est Bouaké, capitale des forces nouvelles, et piston de leur force militaire qui est toujours sous tension.
On va venir évidemment au détail hein, de la composition de cette armée pour bien comprendre les problèmes qu'elle traverse. Thomas Hofnung, en tout cas à chaque épisode et encore la semaine qui vient de s'écouler, les militaires semblent avoir l'habitude de prendre les armes finalement pour régler même des différends internes.
Oui, c'est vrai que c'est très inquiétant et très dur, je pense, bien sûr, pour les populations locales. Quand il y a un problème du côté des militaires, ben on prend les armes. Il y a quelques années, là, il y avait une mutinerie déjà en 2014, et un diplomate m'avait dit, ben c'est en quelque sorte la culture de ceux qu'on appelle les comzones, ces seigneurs de la guerre entre guillemets qui avaient mis en coupe réglée le nord du pays pendant la crise ivoirienne entre 2002 et 2011. La culture des comzones, c'est quand il y a un problème, ben on prend les armes et pour faire valoir ses droits. Ces doléances, eh bien, c'est le meilleur moyen de le faire dans cette culture-là.
C'est-à-dire qu'après des années, finalement, un certain mélange, on y viendra aussi, tous les soldats n'ont pas connu cette guerre-là, en tout cas, la plupart n'étaient pas combattants, ça veut dire qu'ils ont gardé, malgré tout, ces réflexes.
Oui, c'est comme si ça avait un peu une sorte de virus qui avait un peu gangréné l'institution. Arthur Banga pourra en parler mieux que moi à ce niveau-là, mais en tout cas c'est vrai que l'armée, il y a une forme de déliquescence. Elle a connu des problèmes par le passé, mais la crise des années Gbagbo a complètement déstructuré cette armée et la restructurer, ça va prendre du temps. On sait qu'il y a des réformes qui ont été lancées, il y a une loi de programmation militaire qui a été votée, mais le corps militaire s'est tellement décomposé poser, que ça va prendre des années d'efforts encore avant de vraiment de le remettre debout.
Et ces derniers incidents interviennent seulement quelques jours après la présentation des vœux du chef d'état-major des armées au président Alassane Ouattara. Écoutez le général Sékou Touré.
Excellence, je voudrais non seulement vous faire part du profond regret et de la grande amertume des forces de défense et de sécurité pour ces actes incompréhensibles, mais surtout présenter solennellement à vous personnellement et à la nation tout entière nos sincères excuses. L'armée se consacrera désormais et uniquement à son devoir.
Arthur Banga, vous l'évoquiez déjà tout à l'heure, mais c'est vrai que la plupart des mutineries, même toutes les mutineries qui ont émaillé l'année 2017, auxquelles a fait allusion le général Sékou Touré, sont parties de Bouaké, la deuxième ville du pays. Pour quelles raisons? C'est vraiment l'épicentre de la crise au sein de l'armée ivoirienne.
Je pense que Thomas l'a évoqué un tout petit peu. On a passé une décennie de crise où on a eu une armée régulière contre les rebelles. Et ces rebelles ont eu un fonctionnement au sein des forces nouvelles, un fonctionnement qui fait que on a eu vraiment affaire à des soldats qui n'écoutent ou qui n'étaient fidèles qu'à leur comzone et qui régalent leurs différends par des armes. On a eu des différends, en tout cas l'affaire Cast, l'affaire IB, c'est des affaires au sein de la rébellion qui sont résolues un peu avec des armes. Et ce réflexe a un peu resté. Est resté comme une habitude pour nos soldats, pour les soldats qui de l'armée ivoirienne qui sont issus des FAFN. Il s'est trouvé qu'en 2011, on sort de la crise de façon militaire et les forces armées des forces nouvelles réussissent à remporter la guerre en soutenant Alassane Ouattara. Ils sont intégrés beaucoup plus que prévu par les accords militaires, par les accords de Ouagadougou, parce qu'ils sont finalement ceux qui sont restés fidèles à Alassane Ouattara. Ils prennent fort logiquement, parce qu'il ne fallait pas penser que Ouattara allait confier des responsabilités aux militaires qui l'ont combattu il y a quelques semaines. Ils prennent donc fort logiquement la tête de l'armée ivoirienne, mais ils n'ont pas eu le temps de se faire former, ils n'ont pas eu le temps de se faire éduquer en soldats, ils n'ont pas eu le temps d'apprendre la déontologie du métier. Ils ont conservé les réflexes, en quelque sorte, des années de la rébellion. Et finalement, ils persistent aujourd'hui dans cette attitude, je pense, plus de mercenaires, de soldats, de rebelles que de militaires, en fait.
Thomas Hofnung,
c'est le problème aujourd'hui de l'armée ivoirienne.
Thomas Hofnung, alors si je comprends bien, la spécificité de l'armée ivoirienne, c'est que finalement, c'est vraiment l'héritage de la crise politico-militaire qui a éclaté en 2002 en Côte d'Ivoire. Finalement, on peut presque lire cette crise au travers de son armée, de la Côte d'Ivoire.
Oui, c'est vrai que on peut dire quelque part que la page de la crise en Côte d'Ivoire n'est pas tournée finalement. Finalement, à chaque fois qu'on voit bien que périodiquement il y a ces éruptions de violence, et c'est comme si les militaires sont encore très présents dans le paysage. Et ça, je pense quand même qu'il faut insister aussi sur le fait que bien sûr il y a eu ces 10 années de crise, mais comme l'a dit Arthur Banga, c'est aussi les conditions de la fin de cette crise, c'est-à-dire que ça s'est résolu d'un point de vue militaire. Si Laurent Gbagbo avait accepté le verdict des urnes, en tout cas celui qui a été énoncé par la commission électorale de l'époque et validée par les Nations Unies, à ce moment-là, les choses auraient été sans doute différentes, parce que là, finalement, Alassane Ouattara a dû compter sur les ex-rebelles pour entamer son mandat. Donc il a une forme de dépendance, de dette envers ses militaires. Il a été obligé de les ménager au tout début quand il a pris véritablement le pouvoir, et on n'est pas tout à fait sorti encore de cette situation.
Et c'est bien ce qui s'était réveillé d'ailleurs au cours des mutineries de 2017. C'était des promesses de primes faites justement après les élections donc de 2010 qui sont ressorties comme ça à la surface.
Oui, absolument. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Arthur Banga. Il y avait des arriérés, en quelque sorte. Il y avait des accords, les accords de Ouagadougou, qui prévoyaient l'intégration des ex-rebelles. À cause de la persistance de la crise, ils n'ont pas été intégrés. Donc, ils demandaient, en quelque sorte, un rattrapage. Je pense que quand Alassane Ouattara a pris le pouvoir, il faut voir aussi quelle est sa culture personnelle. C'est un économiste. J'ai le sentiment qu'il avait plutôt fait le pari que la croissance économique, le rétablissement de bonnes conditions sociales, économique dans le pays allait permettre de le stabiliser et qu'il a peut-être un peu sous-estimé la question militaire, qui est pas, encore une fois, qui est pas sa culture, en la déléguant en quelque sorte à ces hommes, les Comzones, qui avaient fait le travail qu'il avait soutenu pour jusqu'à le porter au pouvoir. Mmh. Et en fait, il est en quelque sorte rattrapé en permanence par cette question militaire.
Les dettes, finalement, qui datent de cette époque. Arthur Banga, ça veut dire aussi que c'est une armée très hétéroclite. Ces anciens combattants n'ont pas eu la même formation que les militants de carrière dans l'armée ivoirienne.
Exactement. Je pense que Guillaume Soro l'avait rappelé dans une interview. Et c'est des soldats qui ont été recrutés, d'après lui, à la détermination. On n'a pas cherché le minimum d'instruction générale et on n'a pas eu l'instruction militaire nécessaire pour faire d'eux de véritables militaires. Donc on a une armée entre ces soldats-là et d'autres qui ont reçu la formation classique des écoles militaires d'Abidjan, de Yamoussoukro à Zambakro, qui sont issus, eux, des forces, des FDS, qui sont restés un peu loyales durant la guerre.
Ça veut dire que finalement, il y a deux niveaux de soldats au sein de cette armée. Ils n'ont pas eu la même formation. Là, on parlait des mutineries de 2017. Ils ont demandé une partie. Donc les ex-combattants ont demandé des primes. Les autres n'en ont pas profité. Finalement, c'est toujours une armée à plusieurs vitesses.
Clairement, c'est l'héritage. Je me rappelle bien cette phrase de Laurent Gbagbo que j'aime beaucoup. Il a rappelé qu'on n'allait pas sortir de la crise comme dans un dîner gala. Voilà, donc on a l'héritage d'une décennie de crise qui a fait dysfonctionner l'État de façon générale et encore plus l'armée. Et la crise post-électorale a rajouté une couche, quoi. Voilà. Donc, voilà.
Alors en juillet dernier, Ahmed Bakayoko, ex-ministre de l'Intérieur, succédait à Alain Richard Dohaoui au très sensible ministère de la Défense. On l'écoute.
Je compte sur chacun de vous pour que nous puissions ensemble offrir à la Côte d'Ivoire une armée reconstruite qui se réconcilie avec elle-même, avec la population. Nous savons que les difficultés seront nombreuses. À peine nommé, hier déjà, on nous parlait de coups de feu, ça et là. Ce sont des perturbations de personnes qui veulent empêcher le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Mais je veux dire aux Ivoiriens qui peuvent nous faire confiance. Nous allons tout donner pour que les Ivoiriens soient fiers de leur armée.
Thomas Hofnung, on l'entendait, Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, qui se retrouve finalement à la tête d'une armée, on le disait, à deux vitesses.
Oui, je dirais que c'est une armée qui est extrêmement fragmentée. En fait, d'abord, à plusieurs niveaux, si vous voulez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, elle a intégré, elle a réuni les anciens rebelles et les anciennes forces loyales à Laurent Gbagbo, ce qu'on appelait les FDS. Ensuite, au sein de cette armée aujourd'hui, il y a des unités d'élite et puis le gros de la troupe, si je puis dire, dans des casernes qui sont dans un mauvais état, il y a un manque de financement et les conditions quotidiennes pour les soldats, Arthur Banga pourra aussi en parler, je pense, sont très mauvaises. Donc il y a une forme de rivalité, peut-être de jalousie, et qui d'ailleurs est sans doute à l'œuvre dans ce qui s'est passé à Bouaké, hein, où c'est une unité proche d'ailleurs du ministre de la Défense qu'on vient d'entendre, qui a été en ligne de mire. Et puis voilà, il y a aussi également encore un niveau de fragmentation, de division, c'est entre ceux qu'on appelle les Comzones, c'est-à-dire les anciens chefs rebelles. Certains sont loyaux directement à Alassane Ouattara, au chef de l'État, mais d'autres soutiennent plutôt Guillaume Soro, qui est lui-même en rivalité latente avec Ahmed Bakayoko. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de division.
Ça veut dire que c'est une armée en fait très très politisée.
Effectivement, c'est une armée très très politisée.
Et comment fait-elle alors pour agir sur le terrain? Est-ce que ces divisions et donc cette armée à plusieurs vitesses, est-ce que ça se ressent lors d'opérations militaires? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays en paix, mais avec une menace terroriste, avec des violences intercommunautaires, est-ce que ça se ressent aussi sur le terrain?
Ce qui se passe dans les casernes, en tout cas, c'est que les anciens soldats qui étaient loyaux à Laurent Gbagbo sont un peu marginalisés, mis de côté à une époque même, au tout début même de la période qui a suivi la crise, ils n'avaient pas les armes, ils devaient laisser les armes dans les armureries alors que les autres pouvaient les garder, vous voyez. Donc il y avait un traitement différent et ça, tout ça, la page n'a pas été tournée à ce niveau-là aussi. Et je pense que quelque part sous-jacent aussi à tout cela, c'est la question de la réconciliation nationale. Je pense que cette division de l'armée, elle persistante, elle reflète l'absence de réconciliation l'action nationale aussi au niveau politique.
Arthur Banga, une réforme de l'armée ivoirienne, elle a été lancée en 2016. Quels sont ses grands objectifs et est-ce qu'elle pourrait répondre vraiment à cette crise que traverse l'armée ivoirienne ?
Bon, d'abord, faut bien comprendre que le gouvernement, depuis 5 ans, fait quelques efforts. Enfin, d'ailleurs, beaucoup d'efforts, même s'ils ne sont pas toujours payants. Je veux dire, par exemple, aujourd'hui, le commandant des forces, le chef d'état-major général de l'armée, le général Touré Fekou, est issu des FDS qui sont restés fidèles à Laurent Gbagbo et tous ses adjoints. Après, c'est clair que les unités combattantes, la garde républicaine, les puissants bataillons sont aux mains des Comzones, mais progressivement, surtout au niveau officier, on essaie de confier des responsabilités à des officiers issus des FDS. D'ailleurs, la crise de janvier et même de juin, je pense, a permis à Alassane Ouattara de comprendre que ces officiers-là, pour certains, sont des républicains, en ce sens qu'ils sont restés fidèles, en ce sens qu'ils n'ont pas surfé sur la vague, en ce sens qu'ils ont accepté quand même le fait de ne pas toucher une prime de 12 millions de francs CFA qui fait près d'une année de salaire du général. Donc vous voyez, ils ont su montrer quand même à Alassane Ouattara qu'ils pouvaient quelque part compter sur eux. Et ils sont présents quand même dans des unités comme les forces spéciales, il y a ces officiers, il y a des efforts qui ont été faits.
Alors après, l'autre grand objectif de cette réforme, c'est aussi de dégraisser cette armée. Elle est trop nombreuse. On parle de 22 000 hommes. Est-ce que c'est trop aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire?
Évidemment, parce qu'en 2011, on est sorti carrément du cadre des accords de Ouagadougou. Le cadre des accords de Ouagadougou avait voulu répondre à la nécessité d'intégrer des soldats issus de FASN dans l'armée, mais aussi à respecter une sorte de cadre numérique. Ça n'a pas été respecté, on a recruté tout le monde en 2011, on s'est retrouvé donc avec une armée qui a grossi, et souvent avec des soldats qui sont malades, certains qui sont vieillissants, et d'autres qui sont carrément incontrôlables. Et donc la réforme entamée depuis la loi de programmation qui a été activée par Ahmed Bakayoko cette année, qui prévoit le départ volontaire de 1000 soldats. En fait, on s'approche des plus vieillissants, on s'approche des plus malades, on s'approche des plus indisciplinés pour leur proposer une sorte de plan de sortie. Je pense que c'est un chemin qui est encouragé, parce que ça va permettre à l'armée non seulement de retrouver un équilibre numérique, mais aussi de pouvoir se débarrasser des soldats les moins performants.
Et alors, si on regarde dans les détails, Thomas Hoffnung, l'armée ivoirienne, donc je disais, compte 22 000 hommes et 14 000 gradés, en l'occurrence des sous-officiers.
Oui.
Ça dépasse toutes les moyennes des armées. Oui. On parle d'un sous-officier pour 4 soldats au lieu d'un sur 10 dans les autres pays.
Oui.
Comment on explique cela aussi? Est-ce que ça peut nourrir justement certaines frustrations?
C'est vrai que toujours au moment de la sortie de la crise, un certain nombre de soldats ont été promus, ont obtenu des grades de sergent, de caporaux, enfin sont devenus des sous-officiers. C'était une façon de les récompenser, de les remercier. Et donc, bien entendu, après, ça crée une sorte d'effet boule de neige où ceux qui n'ont pas été promus se demandent pourquoi celui avec qui ils avaient combattu ou pendant 10 ans ils étaient à Bouaké ou à Korogo ou ailleurs, et puis ils ont mené cette campagne très difficile jusqu'à Abidjan. Pourquoi certains sont promus et pas eux? Et donc ça crée des jalousies, et puis ça crée aussi une envolée de la masse salariale. Hein. On sait que en fait dans le budget militaire il y a un gros pourcentage qui part dans les salaires, dans la solde. Donc tout ça va faire partie de la réforme qui maintenant est engagée.
Il nous reste 30 secondes, Thomas Hoffnung. Le rapport des Ivoiriens à leur armée, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de défiance, surtout quand on voit des hommes sortir dans la rue avec des armes pour réclamer de l'argent?
Et si, malheureusement, ça fait des années. Hein, il y avait déjà eu des problèmes sous Fouad Boigny. Il y a eu le premier coup d'État en 99, c'est avec les militaires. Donc l'armée, on appelle ça, en Côte d'Ivoire, on parle non pas des forces de l'ordre, mais des forces du désordre. Donc il faut espérer vraiment que ça devienne des forces nationales qui défendent le peuple et l'intérêt national. C'est possible.
Merci beaucoup, messieurs. Thomas Hoffnung, journaliste au site de Conversation, auteur de La crise ivoirienne aux éditions Les Découvertes. Et merci à Arthur Banga, en ligne avec nous d'Abidjan, enseignant-chercheur à l'université Félix Oufouette Boigny, spécialiste des questions de défense. Merci à toute l'équipe de Décryptage. Arthur Tossou, Gérard Perrault, Françoise Delignon, Olivier Roux. L'émission continue sur Facebook et Twitter. Dans moins d'une minute, toute l'actualité africaine sur RFI.